Nous avions commencé la question 8 sur la grâce capitale du Christ. Nous avions vu le corps de l'article, je le reprends très rapidement parce que je présume que vous avez un peu oublié. Alors, c'est intéressant parce que c'est tout le passage, vous voyez, de la théologie, ce qu'on pourrait dire, de la considération de la foi dans la vision paulinienne de Jésus, tête de l'Église, et le théologien de théologie scientifique qui essaie de préciser comment nous pouvons entrer dans ce mystère de Jésus tête. Il est écrit dans l'Épître aux Éphésiens, Dieu l'a donné pour tête à toute l'Église. Ipsum dedit caput super omnem ecclesiam. De même que l'on donne à toute l'Église le nom de corps mystique par analogie avec le corps naturel, secundum similitudinem hominis corpori capitis. Alors, voyez bien le similitudinem, hein, parce que je crois que c'est important. Hein, il ne faudrait pas traduire par analogie, ou bien alors préciser, hein, ce que je vous ai dit la dernière fois. Avec le corps naturel de l'homme, dont les divers membres ont des actes appropriés, ainsi que l'enseigne l'apôtre aux Romains, de même on appelle le Christ tête de l'Église par analogie avec la tête humaine. Celle-ci, en effet, peut être considérée à trois points de vue différents, au point de vue de l'ordre, de la perfection et de la puissance. Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Saint Thomas ramène le point de vue de la tête à ce triple aspect, cette triple fonction, l'ordre, le point de vue de la perfection et le point de vue de la puissance. Sous le rapport de l'ordre, la tête est l'élément premier de l'homme, en commençant par en haut, de là vient que l'on a coutume d'appeler tête tout ce qui est principe. Selon cette parole d'Ézéchiel, à la tête des rues, tu as élevé le signe de ta prostitution. Hein ? Alors marquez la liberté dans laquelle saint Thomas, à la suite des pères, se sert des textes de l'Écriture, hein, pour expliquer cette fonction de la tête. Ce qui est premier, dans un ordre quelconque, c'est la tête, chef de file. La tête, c'est chef de file. On est à la tête d'un mouvement. Tu vas se dire encore, on est à la tête d'un mouvement. Sous le rapport de la perfection. Alors, vous voyez, alors, il faut voir ce que ça veut dire à la tête d'un mouvement, chef de file, fureur. Hein, on voit très bien ce que c'est. On conduit les autres, on les emmène. Ça, c'est la tête. C'est une fonction un peu de cause exemplaire. On est le premier dans un ordre donné. On est mesure. Sous le rapport de la perfection, c'est dans la tête que se trouvent tous les sens intérieurs et extérieurs, alors que dans les autres membres, il n'y a que le sens du toucher, de là vient qu'il est dit dans Isaïe, l'ancien et le noble, c'est la tête. Et l'exemple de l'Écriture n'est pas tout à fait le même, comparé Ézéchiel et Isaïe. On vient voir la différence. Sous le rapport de la puissance, donc la perfection, il y a le point de vue de la noblesse et le point de vue plus intérieur. Hein. C'est pas seulement être premier d'une série, c'est quelque chose de plus. C'est celui qui est source de l'organisation. Je crois que c'est un peu cette idée-là, source de l'organisation. Donc il possède, c'est du côté de la connaissance. Sous le rapport de la puissance, c'est encore la tête qui, par sa vertu, sensible et motrice, donne aux autres membres force et mouvement, et les gouverne dans leurs actes. Alors, c'est plus le point de vue de l'efficacité. Donc il y a connaissance, efficacité, et puis mesure. Voilà pourquoi l'on donne au gouvernement, au gouverneur du peuple, le titre de tête dans, selon cette parole, lorsque tu étais petit à tes propres yeux, n'es-tu pas devenu tête des tribus d'Israël ? Dans le livre des rois, ici. À ces trois fonctions, à ces triades, à ces trois aspects de la tête, appartiennent spirituellement au Christ. Bon. Or, ces trois aspects appartiennent spirituellement au Christ. Spiritualitaire. Alors, le spiritualitaire correspond aussi. Il y a le secundum simultuinem, il y a le spiritualitaire. Voilà. Vous voyez, les trois fonctions, c'est père simultuinem, et l'adaptation au Christ, c'est spiritualitaire. Alors, quelle différence y a-t-il pour saint Thomas entre le spiritualitaire et le secundum simultuinem? En gros, on dit analogie, vous voyez. En gros, on dit analogie. L'analogie pour les trois fonctions, l'analogie pour l'application au Christ. Et saint Thomas a quand même un langage beaucoup plus précis, en employant le père simultuinem et le spiritualitaire. En raison de sa proximité avec Dieu, sa grâce est en effet la plus élevée et la première. Alcior est prior, la grâce du Christ, elle est d'une plus élevée et elle est première, sinon temporairement, du moins en ce sens que tous ont reçu la grâce par comparaison avec la sienne, selon cette parole de l'Épître aux Romains. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né parmi un grand nombre de frères. De même, sous le rapport de la perfection, le Christ possède la plénitude de toutes les grâces. Selon cette parole de saint Jean, nous l'avons vu plein de grâce et de vérité. Donc, vous voyez, il y a une intériorité beaucoup plus grande, hein, la comparaison. C'est plus seulement chef de file. C'est une grâce alcior et prior. Non seulement selon le temps, non, c'est pas ce point de vue du temps, mais que c'est d'être source de toute grâce. Le alcior et prior, c'est d'être source de toute grâce. Au point de vue de la perfection, c'est le point de vue qui possède la plénitude de toutes les grâces. Selon cette parole de saint Jean, nous l'avons vu plein de grâce et de vérité. Et enfin, pour ce qui est de la puissance, le Christ peut communiquer la grâce à tous les membres de l'Église, ainsi qu'il est dit encore dans saint Jean, « De sa plénitude, nous avons tous reçu ». Il apparaît donc évident que l'on peut dire que l'on peut fort bien donner au Christ le nom de tête de l'Église. Conveniente, dit-il. Vous voyez, c'est toute une contemplation du mystère de la tête de l'Église qu'il faut essayer de saisir et comprendre. Donc vous avez le point de vue de l'ordre, le point de vue de la perfection et le point de vue de la virtus. Spiritualitaire consiste, hein, dans une transposition de ce qui est au niveau sensible au niveau divin. On voit très bien les deux types d'analogies. Hein. L'analogie d'abord de la tête. Qu'est-ce que c'est que d'être tête? Alors, père simultuinem. Et c'est au fond les trois aspects ordre, perfection, virtus. On est tête en fonction des trois aspects. Alors, selon l'aspect matériel, l'ordre, c'est simplement être premier. On comprend. Selon l'aspect intérieur, être premier, c'est être le plus élevé. Parce qu'on est tout proche de la survie. Selon la perfection, alors c'est le point de vue de la connaissance, la plénitude de la connaissance, et la vertu, c'est l'efficacité. Dynamisme, mouvement, la virtus. Et alors, la transposition, c'est les trois grands aspects sous lesquels vous pouvez regarder le point de vue de la grâce du Christ. Alors, regardez bien les textes que saint Thomas prend. Parce que ça, c'est au fond là auquel nous devons venir. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né parmi un grand nombre de frères. Donc le premier-né. C'est l'idée de Jésus premier-né parmi un grand nombre de frères. Et donc qu'il soit cause exemplaire. C'est bien l'idée de la cause exemplaire. Il est la mesure de tous les autres. Et tous les autres sont en référence à lui. Donc ce texte aux Romains. Tandis que le second texte, nous l'avons vu, plein de grâce et de vérité. C'est la plénitude. Perfection, la plénitude, plénitude de grâce, plein de grâce et de vérité. L'idée de la connaissance qui est liée à la perfection et qui est liée à la tête. Puis alors, le troisième aspect, de sa plénitude, nous avons tous reçu. Il est source. Source instrumentale, c'est sûr, mais il est source. Donc, le point de vue de la causalité efficiente. Ça, c'est net, la virtus. Et ici, c'est plus le point de vue de la qualité, la plénitude, de grâce et de vérité. On pourrait dire plus le point de vue de la cause formelle. Exemplaire, cause formelle, les deux se tiennent, ils restent assez, assez fortement, mais la cause exemplaire a plus l'aspect de l'extériorité et de la mesure. Vous voyez ce raisonnement très simple, cette lecture, c'est ça qu'on doit essayer de comprendre, cette lecture de saint Thomas de l'Écriture pour transposer tout de suite et comprendre la signification plénière de cette affirmation. Il est tête. Jésus est tête de l'Église. Alors, voyons maintenant les réponses aux objections. Première objection. Il ne semble pas qu'il appartienne au Christ comme homme d'être tête de l'Église. La tête, en effet, communique le sens et le mouvement aux membres. Or, le sens et le mouvement spirituel qui supposent la grâce ne nous sont pas communiqués par le Christ homme, car ainsi que le note saint Augustin, ce n'est pas comme homme, mais comme Dieu que le Christ donne l'Esprit Saint. Or, le Christ, en son humanité, n'est donc pas la tête de l'Église. Oui. Alors, c'est intéressant comme type d'objection, c'est toujours la même chose, c'est le « en tant que ». En tant, le Christ, on peut le considérer toujours, c'est les deux aspects, en tant qu'homme, en tant que Dieu. Or, quand vous dites qu'il est tête, est-ce que c'est en tant qu'homme? Vous voyez bien, il y a un tertium quid qui est laissé tomber. C'est la grâce. C'est par la grâce qu'il est tête. Et la grâce, la plénitude de grâce qu'il a. Donc, c'est ni en tant qu'homme et en tant que Dieu. Vous voyez, c'est les deux. Puisque justement la grâce, c'est le fruit des deux. La plénitude de grâce du Christ, c'est parce qu'il est homme assumé par le Verbe. Donc je ne peux plus séparer. On va voir la réponse que donne saint Thomas. Comme Dieu, le Christ peut de sa propre autorité donner la grâce ou le Saint-Esprit. Comme homme, il lui revient de le faire instrumentalement, car son humanité fut l'instrument de sa divinité. Ainsi, ses actions, par la vertu de la divinité, nous furent salutaires, causant en nous la grâce à la fois par mérite et par une cause efficiente. Saint Augustin nie que le Christ comme homme puisse nous communiquer d'autorité le Saint-Esprit. Mais par mode instrumental ou ministériel, les autres saints, eux-mêmes, peuvent communiquer le Saint-Esprit. Vous voyez, les charismatiques, hein, c'est par mode instrumental, vous voyez bien. Puisqu'il est dit dans l'Épître aux Galates, celui qui vous confère l'Esprit. Vous voyez, saint Thomas reconnaît bien. Communication de l'Esprit Saint, instrumental, c'est le Christ et tous les saints. Deuxième objection. Ce qui possède déjà une tête ne peut soi-même être tête. Mais le Christ comme homme a Dieu pour tête, selon cette parole de l'apôtre. Oui, il fait la tête, sa seconde objection. Bien, c'est tout à fait. Parce que vraiment, c'est assez gros. Le chef du Christ, c'est Dieu. Le Christ n'est donc pas tête. Alors, réponse. Dans le langage métaphorique, in metaphoricis, dans le langage métaphorique, l'analogie ne s'applique pas sous tous les rapports. Autrement, ce ne serait plus une analogie, mais l'expression pure et simple de la réalité. Sans doute, la tête naturelle ne peut pas posséder une autre tête. Espèce de nigaud. On voit très bien, c'est ce que... c'est ça que Thomas veut lui dire. Il le fait avec beaucoup de respect, mais sans doute, la tête naturelle ne peut pas posséder une autre tête, car le corps humain ne fait pas partie d'un autre corps, mais le corps que l'on appelle ainsi par analogie, et qui représente une multitude ordonnée, peut faire partie d'une autre multitude. Ainsi, la société domestique fait partie de la société civile, et le père de famille, qui est la tête de la société domestique, a au-dessus de lui une autre tête, qui est le gouvernement de la cité. Alors vous voyez, cette tête du gouvernement de la cité par rapport à toutes les autres petites têtes des maisons. Vous auriez une merveilleuse programme à montrer, une vision de propagande, la grande tête du président de la République et toutes les autres petites têtes, vous voyez bien. Alors la tête suprême, n'est-ce pas ? En ce sens, rien n'empêche que Dieu soit la tête du Christ et qu'en même temps le Christ soit la tête de l'Église. Ce qui est intéressant, vous voyez bien, ce n'est pas tellement la réponse elle est facile à comprendre, mais c'est que saint Thomas précise, le point de vue métaphoricis. Et vous avez corpus similitudinarii dictum. Vous voyez bien. Alors, quand saint Thomas dit... cet corpus similitudinarii dictum id est aliqua multitudo ordinata es pars multitudinis civilis et ainsi de suite. Donc vous avez ce que saint Thomas précise, il s'agit bien dans un langage propre, une tête ne peut pas être tête d'un autre et avoir une autre tête. C'est bien évident. Qui dit tête dit ce qui est premier. Si vous êtes premier, vous ne pouvez pas être en référence. Mais vous pouvez employer le principe de subsidiarité. Et alors à ce moment-là, vous pourrez dire vous êtes tête de toute une communauté, mais comme il y a une communauté au-dessus de vous, celui qui est à la tête de l'autre communauté est votre propre tête. Oui, c'est le principe de subsidiarité. Ça. Alors, c'est métaphorique. Vous voyez bien. C'est tout simplement, on dit tête ce qui est premier dans un ordre donné. Mais qui est premier dans un ordre donné peut être relatif à un autre ordre, qui lui-même a une tête. Et alors, à ce moment-là, vous avez... Vous êtes tête tout en ayant une subordination à un autre. Troisièmement, sans aucune difficulté, je présume, Chez l'homme, la tête est un membre particulier sur lequel le cœur exerce une influence. Mais le Christ est pour toute l'Église un principe universel. Nous ne pouvons donc pas être tête de l'Église. Il est le cœur de l'Église. Toujours la même question, est-ce que c'est la tête ou le cœur ? La tête a une supériorité manifeste sur les autres membres extérieurs. Le cœur, lui, exerce une influence cachée. Ça, c'est pour toute la question de la théologie du cœur de Jésus. Cet corps habet quamdam influentionem occultam. Mystice. Vous voyez bien, hein, c'est tout à fait différent. C'est beaucoup plus mystique de parler du cœur du Christ que de parler de la tête. C'est pourquoi on compare au cœur le Saint-Esprit qui vivifie et unifie invisiblement l'Église. Et à la tête, on compare le Christ dans sa nature visible. Parce que comme homme, il l'emporte sur les autres hommes. Et la révélation du cœur de Jésus vient quelque chose de plus. Vous avez donc tête. Vous voyez, la tête, c'est lié à la perfection de la connaissance. Le cœur, premier, premier. Ce sont deux premiers. Eh bien, l'expérience de Médor et d'Azor. Hein, vous coupez la tête de Médor et vous coupez la tête d'Azor. Et vous les remplacez en laissant le cœur de Médor avec la tête d'Azor. C'est ça ? Et quand vous avez fait le changement, vous appelez Azor. Lequel va répondre ? C'est l'expérience qui a été faite. Vous avez coupé la tête et le cœur. Savoir lequel répond. C'est très intéressant. Parce que les philosophes ont discuté là-dessus. Vous savez bien. Il y en a qui dit que c'est la tête, et l'autre qui dit que c'est le cœur. Le vieil Aristote, hein, n'était que c'est le cœur qui est le principal. Hein. Premier mouvement, immobile, le cœur. Hein. La tête, c'est du côté beaucoup plus de la connaissance. Alors je reviens à l'exemple de Médor et des Hommes. Hein. Eh bien, c'est le cœur d'Azor qui a répondu avec la tête de Médor. Pour montrer que le nom est plus inscrit dans le cœur. La conclusion, les savants soviétiques ne donnaient pas ça comme conclusion, je l'ai traduit spiritualité. Que le nom est plus inscrit dans le cœur que dans la tête. C'est très joli, tout ça, c'était merveilleux. Je n'ai pas pu savoir si c'est. J'ai vu ça dans une revue. Ça m'a tout de suite alerté. Et ça, ça se retient. J'ai jamais pu savoir si cette expérience est vraie. Ce serait très intéressant de savoir si vraiment cette expérience était faite. Pour l'homme, c'est plus difficile à faire. Mais pour l'animal, on peut le faire. La tête est donc la tête. Ça manifeste. La manifestation, c'est toujours du côté de la connaissance. Et le point de vue du cœur, donc, c'est l'amour. Alors, Saint Thomas dit que le cœur, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint habite dans le cœur de Jésus. Il habite aussi dans la tête, mais il habite dans le cœur de Jésus. Et c'est le point de vue du point de vue caché. Vous voyez ? Et invisible, tandis que la tête, elle est visible. Alors la tête, c'est celui qui commande. Il faut que celui qui commande soit visible. Et celui qui inspire, c'est de façon très pure. C'est le cœur. Ça, c'est très très joli. Il faut réfléchir là-dessus. Parce que c'est quand même très très bien ça. Voir l'Esprit Saint, on peut dire que c'est l'Esprit Saint qui est le cœur de l'Église. Hein. Et puis on peut dire que le cœur du Christ, c'est le lieu où l'Esprit Saint agit. Par excellence. C'est le lieu. C'est le lieu. L'Esprit Saint agit par excellence. La tête, c'est le point de vue du gouvernement. C'est le point de vue de la connaissance, de la manifestation. Vous voyez, ça complète ça. Ordre, perfection, vertu. puis ben, le cœur. Causalité finale. Oui, bien. La causalité finale. Bien la causalité finale, et c'est la causalité finale, c'est le primum movens immobile. On disait toujours une sœur du Carmel, une sœur tournière du Carmel, qui était à la fois qui avait son cœur qui était très très malade depuis très longtemps. Alors elle parlait toujours du moteur immobile. Elle disait, mon moteur immobile va pas trop mal. Mon cœur, le moteur est mauvais, c'est la cause finale. Elle disait des choses qui n'étaient pas si bêtes. Le moteur immobile, celui à partir de l'influence. Article 2. Le Christ est-il tête des hommes en ce qui regarde leur corps ou seulement en ce qui regarde leur âme? On va aller plus vite ici, hein. On va aller plus vite parce que ces choses sont moins importantes. Alors, je vois simplement le corps de l'article. Nous lisons dans l'Épître aux Philippiens, « Il transformera notre corps misérable en le rendant semblable à son corps glorieux. Configuratum corporis claritatis sui. » Le corps humain possède un ordre naturel à l'âme rationnelle. Très très important de souligner ça trois fois, hein, à propos de l'évolution, vous comprenez. C'est très important ça. Corpus humanum habet naturalem ordinem ad animam rationalem. Tandis que le corps animal, si évolué qu'il soit, n'a pas cet ordre naturel vers l'âme rationnelle. Et ça, c'est très important à propos, justement, de toutes les expériences qui peuvent se faire. Vous vous servez d'un animal, d'un petit animal, pour faire une expérience par rapport à une médecine, par rapport à une découverte, puis vous transportez après sur le corps de l'homme. Et vous savez toutes les bêtises que ça peut faire. Parce qu'on oublie ça. On oublie cette petite affirmation qui est d'Aristote, mais que saint Thomas reprend ici. Le corps humain possède un ordre naturel à l'âme rationnelle. Qui est, ça c'est, vous voyez, là on voit bien l'utilisation que fait le théologien de la sagesse philosophique. Jusqu'au bout de la sagesse philosophique du traité du vivant. Le traité du vivant assumé dans une lumière de sagesse. Le corps humain possède un ordre naturel à l'âme rationnelle. Ça, c'est pas révélé, ça. C'est nettement le point de vue de la philosophie, qu'on utilise pour la théologie, qu'on utilise pour aider à mieux comprendre, à mieux pénétrer le point de vue de la foi. Le corps humain possède un ordre naturel à l'âme rationnelle, qui est sa forme propre et son moteur. En tant qu'elle est sa forme, l'âme lui communique la vie et les autres propriétés qui appartiennent spécifiquement au corps humain. En tant qu'elle est son moteur, l'âme se sert du corps instrumentalement. C'est très important là aussi que saint Thomas met les deux. Vous voyez ? Parce que vous savez bien, dans Aristote, les deux sont présents. Mais alors, certains ont voulu se servir de cette seconde emploi de l'âme par rapport au corps pour dire qu'Aristote n'affirmait pas le premier. Saint Thomas distingue les deux, et c'est très très important de distinguer les deux. L'âme par rapport au corps a une double fonction. Première fonction, d'informer le corps. Donc, elle, in quantum est forma. Récipit ab anima vitam. Et par là, le corps reçoit la vie. Le corps est un vivant. Un corps vivant par l'âme qui l'informe. Et puis, l'âme est principe de mouvement pour le corps. Et alors à ce moment-là, le corps par rapport à l'âme devient un corps instrumental, instrumentalitaire, servit animé. Ainsi, l'humanité du Christ, alors c'est aussi très important, mais c'est très audacieux, pensez un tout petit peu à la pensée moderne, hein, quand quelqu'un de modernisant lit ça. Alors, vous voyez toute la question, hein, toute la question. Saint Thomas refuse, quand je regarde l'âme et le corps humain, saint Thomas montre, faisons attention, ici nous sommes en face de l'âme rationnelle, ici l'âme animale et le corps animal. Saint Thomas montre qu'on ne peut pas passer de l'un à l'autre. Donc saint Thomas refuserait, au point de vue philosophique, en disant « une expérience marche sur l'animal, je la transpose sur l'homme ». Non, je ne peux pas le faire. Parce que le corps de l'homme est spécifiquement différent du corps animal. Il est spécifiquement différent. Donc c'est ça qu'on voit, qu'on doit regarder. Parce que l'âme qui informe le corps est une âme rationnelle qui informe le corps, et donc le corps humain est spécifiquement différent. Génériquement, on peut mettre quelque chose de semblable, mais spécifiquement différent. Et donc je ne peux pas passer d'une expérience à l'autre. C'est une erreur scientifique. Parce qu'on passe du spécifique, on confond le spécifique au générique. Je passe troisième position, l'analogie avec l'âme du Christ et le corps du Christ. Vous voyez tout de suite l'objection que je peux faire, mais l'âme du Christ, elle existe dans la personne du Verbe. La distance, comprenez bien, la distance entre l'homme qui a une âme rationnelle et un corps humain par rapport à Jésus est une distance plus grande que celle qui existe entre l'animal et l'homme. Vous voyez tout de suite l'objection qu'on peut faire. Et ça, c'est très important. Ce sera l'objection qu'on prend. Dans le monde d'aujourd'hui, hein, dans le monde d'aujourd'hui, nous considérons que la distance entre l'âme animale, entre le corps de l'animal et le corps de l'homme, petite, pas grand-chose. Pas grand-chose, puisque tout le corps animal est tendu vers le corps de l'homme. Alors quand on vient à faire un animal supérieur, c'est pas très bien la différence qu'ils sont dans les deux. Et le passage du Christ à l'homme, on dira, mais on ne peut pas. On ne peut pas faire une analogie. Vous voyez la différence de regard du théologien et de l'homme moderne. Du théologien qui est saint Thomas et l'homme moderne. C'est que la distance, hein, je reprends, parce que c'est, tout est là, hein, aujourd'hui. Et c'est ça qui est intéressant à voir. Voyez. Si je ramène l'âme rationnelle à l'âme animale, je ne peux pas me servir d'analogie de l'animal par rapport au Christ. Et je peux me servir de l'âme rationnelle par rapport à Jésus. Ça, je crois que c'est très important de sentir ça. Alors, on va continuer, vous allez voir. Ainsi, l'humanité du Christ possède un pouvoir d'influence. Donc, la sic ergo dicendum, quod habet vim influendi. Ainsi, l'humanité du Christ possède un pouvoir d'influence parce qu'elle est conjointe au Verbe de Dieu, le corps se trouvant uni par l'intermédiaire de l'âme, comme il a été dit. Dès lors, toute l'humanité du Christ, aussi bien son âme que son corps, exerce une influence sur les hommes, sur leur âme comme sur leur corps, principalement sur leur âme, il est vrai, et sur leur corps secondairement. Cette dernière influence se manifeste d'une double manière, en ce sens d'abord que, comme dit l'apôtre, les membres du corps sont offerts pour être les instruments de la justice, qui, grâce au Christ, se trouve dans l'âme, pour parler comme l'apôtre, en ce sens encore que la vie glorieuse dérive de l'âme jusqu'au corps, selon cette parole de l'Épître aux Romains, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels à cause de son esprit qui habite en vous. Oui, c'est très important et très intéressant de cet article, hein, de voir comment saint Thomas voit que l'âme du Christ qui informe le corps et qui subsiste dans le Verbe de Dieu fait que nécessairement Jésus a une influence premièrement sur l'âme et secondairement sur le corps. Vous voyez bien ça, j'espère. Alors, article 3. Le Christ est-il tête de tous les hommes? On peut aller assez vite, là, c'est pour ça que je vais... C'est parce qu'il faut avancer. Il dit dans la première épître, il est dit dans la première épître à Timothée, il est le sauveur de tous les hommes, et spécialement des fidèles. Et dans la première épître de saint Jean, il est lui-même une victime de propitiation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Or, sauver les hommes, être victime de propitiation pour leurs péchés, revient au Christ précisément parce qu'il est tête. Le Christ est donc tête de tous les hommes. Il y a cette différence entre le corps naturel de l'homme et le corps mystique de l'Église, que les membres du corps naturel coexistent tous en même temps, mais non les membres du corps mystique. Petite différence. Hein. Le corps mystique et puis le corps naturel. Le mysticum. Et cela est vrai, soit que l'on considère leur être de nature, le corps de l'Église est en effet constitué par les hommes qui vécurent depuis le commencement du monde et qui vivront jusqu'à la fin, soit que l'on considère leur tête de grâce, leur être de grâce, parmi les membres de l'Église, qui vivent à la même époque. En effet, certains sont privés de la grâce et l'auront plus tard, d'autres déjà la possèdent. Il faut donc regarder comme membres du corps mystique non seulement ceux qui le sont actuellement, mais aussi ceux qui le sont en puissance. Parmi ces divers, les uns le sont en puissance sans jamais le devenir en acte. Les autres le deviennent en acte à un moment donné, soit par le moyen de la foi, soit par le moyen de la charité en cette vie, soit enfin par la béatitude de la patrie cachée, de la patrie céleste. Si donc nous considérons en général toutes les époques du monde, le Christ est tête de tous les hommes, mais à divers degrés. En premier lieu et principalement, il est tête de ceux qui lui sont unis dans la gloire. En second lieu, il est tête de ceux qui lui sont unis actuellement par la charité. En troisième lieu, de ceux qui lui sont unis par la foi. En quatrième lieu, de ceux qui lui sont unis en puissance, mais qui, dans les desseins de la prédestination divine, le seront un jour en acte. En cinquième lieu, enfin, de ceux qui lui sont unis en puissance et qui ne le seront jamais en acte, tels les hommes qui vivent en ce monde et qui ne sont pas prédestinés. Quant aux autres qui ont quitté cette vie, ils cessent entièrement d'être membres du Christ, car ils ne sont plus en puissance de leur être, de lui être unis. Vous voyez cette manière dont saint Thomas essaie d'hiérarchiser Jésus tête. Les cinq modalités, je crois que c'est assez facile à comprendre, il n'y a pas de gros problème là-dessus. Simplement, mieux les voir. Les cinq modalités de la tête. Vous voyez, ça se prend, cette hiérarchie se prend du côté de la virtus. C'est du côté de la virtus actuelle. Quelle est l'influence actuelle du Christ? Alors, vous pouvez dire que... Si donc, en général, toutes les époques du monde, le Christ est tête de tous les hommes, mais à divers degrés. Et ces divers degrés sont pris du côté de la virtus. Premièrement, par rapport à la gloire, tous ceux qui sont unis dans la gloire. Il est la tête de tous ceux qui sont dans la gloire. En second lieu, tête de ceux qui lui sont unis actuellement par la charité. En troisième lieu, ceux qui lui sont unis par la foi. En quatrième lieu, de ceux qui sont unis en puissance. Plus tard, hein. En cinquième lieu, de ceux qui sont unis en puissance. Et jamais en acte. Tels les hommes qui vivent en ce monde et qui ne sont pas prédestinés. Quant aux autres qui ont quitté cette vie, ils cessent d'être entièrement, d'être membres du Christ, car ils ne sont plus en puissance, ils ne sont plus unis en puissance à son égard. Donc vous voyez, les cinq hiérarchies, et c'est joli, reste. C'est bien les virtus. Gloire, charité, foi, en puissance, en acte. En puissance, en attente d'être actué, en puissance, simplement. Restons toujours en puissance. Il y aura toujours une relation vis-à-vis du Christ. Une très belle hiérarchie. Oui, bien que... Et ça montre bien que là, saint Thomas prend le point de vue de la virtus. Les effets actuels du Christ sur les hommes. Les effets actuels du Christ sur les hommes ont donc cinq modalités différentes. Prenez la seconde. L'apôtre écrit aux Éphésiens, le Christ s'est livré lui-même pour l'Église, pour la faire paraître devant lui glorieuse, sans tache, sans ride, ni rien de semblable. Mais il y en a beaucoup, même parmi les fidèles, en qui se trouve la tache ou la ride du péché. Le Christ n'est donc pas tête de tous les fidèles. C'est facile à comprendre, hein. Il n'est pas tête actuelle, tout simplement. L'Église, voilà la réponse de saint Thomas. L'Église glorieuse, sans tache, ni ride, est la fin dernière vers laquelle nous sommes conduits par la passion du Christ. Mais elle ne se réalisera que dans la patrie céleste, et non en cette vie où nous nous trompons nous-mêmes si nous prétendons être sans péché. Ainsi qu'il est dit dans la première épître de saint Jean. Il y a cependant différents péchés, à savoir les péchés mortels qui ne connaissent les pécheurs ou les péchés mortels, qui ne connaissent que les membres du Christ, mais actuellement à lui par la charité. Quant à ceux qui sont coupables de fautes mortelles, ils ne sont pas membres du Christ en acte, mais en puissance, sauf peut-être d'une manière imparfaite par la foi informe, laquelle nous unit, laquelle donc, mais en puissance, sauf peut-être d'une manière imparfaite par la foi informe, laquelle unit au Christ relativement et non de cette façon absolue qui permet à l'homme d'obtenir par le Christ la vie de la grâce. Selon cette parole de saint Jacques, la foi sans les œuvres est morte. De tels membres reçoivent du Christ cette activité vitale qui consiste à croire. Ils sont semblables à un membre paralysé que l'homme arrive à mouvoir de quelque manière. Vous voyez, alors il y a beaucoup de, aujourd'hui, de ceux qui sont comme ça dans l'hôpital avec un poumon d'acier. Vous voyez bien, oui.
Tels les gens qui vivent dans ce monde et qui ne sont pas
prédestinés. Oui, oui, Jésus. C'est-à-dire qu'ils ne sont jamais actués.
Mais c'est un
refuge. Oui, c'est sûr, c'est évident. Et saint Thomas a le droit théologien de regarder la prédestination en faisant attention. Vous vous placez d'un point de vue psychologique.